Aujourd'hui, on devait parler des solutions qu'on met en place en urgence lorsque les entreprises, les restaurateurs nous appellent et que la situation économique va mal. On a décidé de décaler ce sujet à une prochaine fois. Alors juste pourquoi? Parce que en fait, on a beaucoup de sujets, beaucoup d'entreprises qui nous ont sollicité ces derniers temps, qui sont en difficulté. Donc on a beaucoup de matières premières à apporter et on s'est dit que ça serait plus intéressant de les apporter une fois qu'on a des premiers résultats. Là, notamment avec Didier, on revient d'un rendez-vous avec un restaurateur qui est en grande difficulté. Donc, bah voilà. Puis pareil, Christophe, de son côté, il a des éléments. Donc, on reviendra sur le sujet. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de l'optimisation du recrutement. Et alors, juste pour que, avant de vous laisser la parole, je voulais apporter un petit éclairage, une petite mise à jour des chiffres. Je suis allé sur les chiffres de l'URSSAF ce matin et on s'aperçoit que l'effectif salarié qui est dans la restauration, l'hôtellerie-restauration est toujours en augmentation. Et donc c'est pour mettre en perspective par rapport à avant le Covid. Donc les chiffres sont supérieurs avant le Covid. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de salariés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration qu'avant. Donc je vous laisserai commenter ces chiffres. Et puis un autre chiffre qui est intéressant, c'est concernant comment dire, les taux de démission de CDI dans le secteur de la restauration, qui est beaucoup plus important que tous les autres secteurs, hein, commerce, construction, industrie, et aussi beaucoup plus important que 2019, si on compare. Donc, c'est des chiffres de 2022. Dans l'hébergement-restauration, ce taux se situe à 31%. Voilà. Donc, pour vous dire que la difficulté de trouver des gens de recrutement est toujours plus intense que jamais. Et donc, il est toujours intéressant d'optimiser ce processus de recrutement. Donc, messieurs, je vous remercie de commenter un peu ces chiffres et puis aussi de parler des solutions que vous mettez en place pour trouver des solutions. Qui c'est qui voulait commencer, peut-être?
Honneur aux anciens, je pense, hein.
Toujours. Bon, allez.
C'est gentil, Christophe. Alors, et moi, je pense que fondamentalement, il y a un certain nombre d'écueils que doivent franchir les chefs d'entreprise. C'est d'abord un écueil générationnel. La majorité du personnel qui est embauché dans l'hôtellerie, la restauration en ce moment, font partie de ce qu'on appelle la génération X et la génération Y, c'est-à-dire des gens qui sont nés après 1980. Et qu'il faut comprendre que ces gens-là ont des aspirations, enfin ces jeunes-là ont des aspirations qui sont totalement différentes de ce que nous avons connu. On fait tous plus ou moins, tous les chefs d'entreprise aujourd'hui font plus ou moins partie de ce qu'on appelle la génération des boomers, des baby boomers, c'est-à-dire des gens qui sont nés entre 46 et 64 pour la majorité. Et donc il y a un problème de génération. Il faut avant tout, essayer de comprendre ces nouvelles générations qui ont des aspirations différentes. Ils sont beaucoup plus axés sur le développement personnel qu'on ne l'était. Ils sont donc, ça veut dire qu'ils vont choisir des opportunités. Il faut leur proposer des formations. Il faut leur proposer une évolution possible de carrière. Et paradoxalement, ces gens-là ne veulent plus faire de sacrifices sur les horaires de travail. Donc, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, l'une des solutions, c'est entre autres d'augmenter le nombre de lignes sur le planning horaire, c'est-à-dire plutôt que de proposer des horaires à coupure, eh bien, il faut réorganiser le travail pour qu'il y ait des gens qui travaillent le matin et d'autres personnes qui travaillent le soir. En cuisine, ça peut être peut-être plus facile qu'en salle, parce qu'en cuisine, on peut très bien bâtir une équipe de production et puis une équipe qui assure le service. Qui bien souvent a besoin d'être moins compétente l'équipe de production. En salle, c'est un peu plus compliqué. En salle, il faut admettre qu'il faut peut-être embaucher des gens qui travaillent le matin, d'autres personnes qui travaillent le soir. Donc, ça sera peut-être des temps partiels, des gens qui ne sont pas forcément du métier, qu'il faudra former, il faudra leur apprendre les bases du métier, et moyennant quoi, on va arriver à fidéliser le client. Mais à fidéliser, pardon, pas le client, à fidéliser les salariés. C'était un lapsus révélateur. Mais il faut aussi comprendre que ils ont besoin de reconnaissance avant tout. Moi, je prends souvent, j'en parle souvent, l'exemple de Éric Guérin de La Mare aux Oiseaux, qui est un étoilé Michelin, qui est un bon exemple. Il a reçu le premier label Marianne. qui concerne justement la façon dont on traite le personnel. Et il y reconnaît lui-même, lui, son personnel reste 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans dans son établissement, alors que ils ont les mêmes salaires que dans d'autres établissements étoilés et où ils restent beaucoup moins longtemps. Donc ça tient uniquement à la façon de les traiter. Il faut savoir reconnaître les compétences du personnel et leur dire. Il faut pouvoir les mettre en avant. Moi, je regarde beaucoup les réseaux sociaux et j'aime bien quand un restaurateur, il met une photo de son équipe, il dit, voilà, c'est pas moi qui travaille, c'est eux. Et donc, il valorise individuellement chaque personne en la mettant en avant. Quand il y en a un qui réussit un diplôme, il le dit. Quand il y en a un qui fait quelque chose de bien, il le dit. Et il le communique à tout le monde. Donc, c'est une reconnaissance pour le personnel. Donc, il faut arriver à comprendre que, avant tout, si on veut fidéliser et faciliter le recrutement, il faut, en premier lieu, apprendre à bien traiter son personnel. C'est fini l'époque. Moi aussi, j'ai connu, quand j'étais apprenti à 14 ans, ça marchait, comment je vais dire, de façon beaucoup plus virile. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, mais il faut apprendre ça. Les chefs d'entreprise doivent apprendre que s'ils veulent conserver leur personnel et en trouver, eh bien, il faut qu'ils apprennent à donner de la reconnaissance au personnel. Et même en les payant le même salaire que dans les autres entreprises, ils les conserveront de façon plus facilement. Et deuxième chose, il faut être créatif au niveau des ce que j'appelle les avantages sociaux. Aujourd'hui, on voit plein d'annonces, recherche chef de cuisine, recherche serveur, recherche maître d'hôtel. Oui, d'accord, bah, tu recherches un chef de cuisine, un maître d'hôtel, un serveur, comme tout le monde, hein, puisque tout le monde en cherche en ce moment. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu proposes de plus pour qu'ils viennent chez toi plutôt que chez ton voisin ? Donc, soyez créatifs au niveau des avantages sociaux. Est-ce que vous pouvez les loger ? Est-ce qu'ils ont 2 jours de repos consécutifs ? Est-ce qu'ils ont des horaires continus ? Etc. Donc, tout ça, ce sont des avantages sociaux qu'il faut arriver à mettre en avant. Et c'est la seule méthode qui fera que vous trouverez plus facilement du personnel. On va demander l'avis de Christophe sur ces points-là, mais je pense qu'il partage mon avis.
Oui, ben moi je t'écoutais parce que c'est vraiment ton domaine. Et moi je bois tes paroles et puis au quotidien, effectivement, j'essaye de mettre en application. Et donc pour te rejoindre, tout simplement, c'est que effectivement en ce moment, ben, je suis sur une grosse mission sur donc un restaurant, on va dire plus snacking. Et effectivement, moi je me suis aperçu que la première chose que j'ai faite, en arrivant plus exactement, c'est j'ai commencé à dialoguer avec le personnel, à comprendre quel était chaque poste, parce que moi tout de suite je me suis dit tiens, au lieu de faire un recrutement, puisque ils voulaient, alors ce qui était paradoxal, c'est qu'ils voulaient se séparer d'une partie de leur personnel et recruter du personnel. Et je leur dis, ben c'est stupide, parce que le recrutement interne, il faut le valoriser, parce qu'effectivement, on peut chercher en externe, et ça, tu pourras en parler, puisque ça fait partie aussi de ton métier, et tu sais très bien le faire. Mais en interne, parfois, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Le problème, c'est qu'il y a un manque de communication, et là, je suis face à un chef. Alors, pour donner un peu le cadre, moi, j'ai décidé d'être dans l'amplitude de l'entreprise. Il faut savoir que dans cette entreprise, ils travaillent environ 5h30 par jour, mais sur 6 jours.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire en accord avec les salariés, le patron a dit voilà, c'est vous qui choisissez. Et donc, à la majorité, les salariés ont préféré travailler 6 jours, tu vois, mais par contre, 5h30 par jour. Et puis, petite particularité, c'est que le patron a accepté que s'ils ont fini au bout de 4h30, eh ben ils partent. Bien évidemment, pas les cuisiniers, parce qu'il faut produire. Mais pour d'autres, au sein de leur entreprise, certaines fonctions, donc comme ceux qui font le nettoyage, etc., il n'y a pas de problème. Des fois, au bout de 4h30, 5h, ils peuvent partir. Donc, c'est un arrangement. Moi, une fois que je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, tiens, je vais voir leurs fonctions, puis je vais leur demander des choses. Et par exemple, une chose toute bête, je montre au chef que pour avoir des idées, il suffit simplement de démultiplier. Et donc, j'ai démultiplié, c'est-à-dire, j'ai demandé à chacun qu'est-ce qu'il voulait faire comme sandwich, comme plat, comme salade, etc. Et chacun m'en a donné. Alors, bien évidemment, on en demande un. Chacun m'en a ramené trois ou quatre. Et moi, j'ai pu, justement, avec ça, d'abord, un, les remercier. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, effectivement, et là, je te rejoins, on m'a jamais dit, c'était bien, et on m'a jamais remercié de ramener une recette. C'est bizarre, hein. On est en 2023 et j'ai l'impression qu'on ne sait toujours pas communiquer. Communication est très importante en interne, d'accord. C'est pas juste écouter, c'est écouter, entendre, comprendre. C'est ces trois choses qui sont importantes. C'est pas simplement. Et pour le recrutement, c'est la même chose. Et là, je pense que tu vas en parler un peu plus longuement. C'est que il faut vraiment savoir où on met les pieds, dans quelle entreprise, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'on recherche. Parce qu'il y a une époque, et ça tu l'as connu beaucoup mieux que moi, j'allais dire une époque où dans la restauration, on arrivait le matin, il y avait plein de gens qui attendaient et on disait voilà, il y a deux postes de second, enfin de plongeur, il y a un poste de ceci, là, et les gens levaient la main, on les choisissait et ils étaient pris pour une journée ou deux, bref, voilà, ils étaient payés à la journée. C'est vrai que c'est resté ça. Je trouve qu'aujourd'hui, en observant ça chez des patrons actuels, j'ai l'impression qu'ils sont encore dans ce côté, j'allais dire, passéiste. Or, toi, tu montres aujourd'hui que non, il y a une nouvelle façon de recruter pour optimiser au maximum nos restaurants, nos affaires.
Il y a une nouvelle façon de recruter tout simplement parce que La mentalité du personnel a évolué. Le personnel, les gens, toi, moi, tout le monde, on évolue tous en permanence dans nos caractères, dans nos envies, dans nos besoins, dans notre façon de vivre. Aujourd'hui, ils sont en recherche de vie sociale pour la plupart. Et on ne peut pas leur donner tort, objectivement. Il y a toujours le débat. Je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure là, sur la marque employeur et on va développer, mais il y a toujours ce débat entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors d'aucuns diront que quand on est passionné, la vie personnelle disparaît au profit de la vie professionnelle. Mais aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus envie de ça. Ils ont envie d'être passionnés par leur métier, ce qui est bien. Mais ils ont aussi envie d'avoir une vie personnelle, une vie sociale extérieure. Donc, il faut pouvoir leur apporter ça. Et ça, c'est compliqué. Le deuxième point, c'est que, pour dire les choses de façon triviale, dans l'hôtellerie et dans la restauration, on a tendance à embaucher ce que j'appelle à l'arrache.com. C'est-à-dire que j'ai un besoin, il y en a un qui passe devant la porte, vas-y, rentre, fais-moi voir ce que tu sais faire. Oui, mais est-ce que son savoir-être à cette personne va correspondre au savoir-être de l'entreprise? Est-ce qu'il va correspondre à ce que l'on appelle la marque employeur de l'entreprise? La marque employeur, c'est l'histoire de l'entreprise, c'est les valeurs qu'ils veulent développer, qu'il faut mettre en avant. Est-ce que cette personne va adhérer aux valeurs de l'entreprise? Donc, au lieu d'embaucher à l'arrache.com, il faut se poser tranquillement et faire une vraie réunion de recrutement. Un entretien d'embauche, ce que l'on appelle un entretien d'embauche, ça dure minimum 30 minutes avec une trame bien bâtie, des questions auxquelles il faut répondre, et puis un ressenti, mais au cours duquel on va pouvoir discuter avec la personne, juger de son savoir, bien entendu, de son savoir-faire et de son savoir-être. Et mais le problème,
attends, excuse-moi de te couper deux minutes, mais qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit, un chef d'entreprise qui te dit, écoute, moi, j'ai pas le temps de tout ça, ton recrutement, c'est bien, mais moi, j'ai pas le temps, il faut tout de suite avoir du personnel, et en plus, voilà, il faut qu'il soit, j'allais dire, compétent et prêt. Instantanément, on allait dire un peu comme ça. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de...
Alors, je vais lui répondre de façon très simple. Je vais lui dire que le turnover du personnel dans une entreprise coûte très cher. On estime, statistiquement, c'est facilement vérifiable, on estime que, par exemple, pour remplacer un chef de cuisine qui toucherait 3 500 euros brut par mois, ça peut coûter jusqu'à 30 000 euros par an de perte Donc, la solution, c'est il vaut mieux payer des gens qui sont spécialisés dans le recrutement, qui vont bien entendu vous prendre des honoraires, mais qui seront moins élevés que le coût du turnover dans votre entreprise. Parce que quand on embauche une nouvelle personne, elle n'est pas opérationnelle tout de suite. Il faut parfois la mettre en doublure. Le temps de monter en gamme, tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc, au niveau de la productivité, ça coûte de l'argent. Donc, il faut mieux payer des entreprises spécialisées.
Oui, mais Didier, mais en allant un peu plus loin, je me fais l'avocat du diable. OK, mais moi, je vais te payer, par exemple, tu vas venir, je vais te payer, tu vas être un chasseur de tête. Je t'ai demandé un petit peu les critères que je recherchais. Tu viens avec… alors, qu'est-ce qui fait que moi, à la limite, je vais accepter de passer par toi alors que je peux croire ma bonne étoile et finalement me dire que je vais passer une annonce un peu dans le bon coin, finalement je retrouverai quelqu'un, et puis même s'il n'est pas… Allez, j'en prendrai deux pour le prix d'un, et puis ça ira bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que, bien évidemment, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que l'on peut donner, j'allais dire, d'argument au patron pour qu'il se dise « Allez, je joue le jeu avec vous et on y va. »
Eh bien, je répondrai à ce patron que tous les cabinets de recrutement sérieux offrent de toute façon une garantie de remplacement si le salarié ne convient pas pendant la période d'essai. Donc, ça veut dire qu'un cabinet de recrutement sérieux, il s'engage à proposer un autre candidat qui correspond au poste gratuitement, si le premier ne fait pas l'affaire. Donc, je veux dire, il y a quand même une certaine garantie. Mais c'est bien de poser la question comme ça, mais il faut aussi poser la question dans l'autre sens. Ça veut dire que quand une entreprise recherche un employé, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, qu'il soit cadre ou pas, il faut aussi poser, il faut que le recruteur pose les bonnes questions à l'entreprise, quitte à bousculer parfois un petit peu. Je veux dire, c'est… Comment vous traitez vos salariés? Quel est votre taux de turnover? Et combien est votre équipe et combien avez-vous passé de salariés l'année dernière? Moi, je me souviens d'une entreprise qui était en région parisienne. Ils avaient un taux de turnover de 98%. Est-ce que le problème vient des employés ou est-ce que le problème vient de l'entreprise avec 98% de turnover? Moi, la réponse est simple. Le problème vient du management, de la façon de traiter le personnel. Parce que 98%, c'est hors norme. Donc, oui, mais… effectivement, quand il avait besoin de personnel, c'était à Paris, il avait besoin de personnel, il descendait dans le métro, tu veux bosser, ben viens. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi.
Oui, mais si tu veux, je te rejoins, mais je vais un peu plus loin. On s'aperçoit aujourd'hui que les fast-food, sans les nommer, bien évidemment, et tout ce qui est un peu… donc, effectivement, le food truck… oui, c'est food truck ou autre, sont en train de… Eux, ils ont un système qui est totalement différent. Je vais pas citer des marques, mais des enseignes, mais on s'aperçoit que eux, c'est un système où on vient, on rentre dans un moule, on reste le temps qu'on doit rester, peu importe, et on part. Dans une entreprise de restauration traditionnelle, la problématique, elle est toujours la suivante, c'est si j'embauche quelqu'un, je vais appeler mon service de comptabilité, je vais faire rentrer cette personne. Si elle repart au bout d'un certain moment, bah déjà, ça me coûte de l'argent parce que j'ai des papiers à faire, il faut que je lui paye tout ce que je dois lui payer. Et donc, tout ça finit par coûter très cher. Donc, moi, j'allais dire, je suis toujours un peu effaré de voir que ces entreprises, elles fonctionnent comme ça. Et ça marche. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, est-ce que tu peux nous donner, face au recrutement, comment elle fonctionne pour…
Alors, le système des fast-food, d'ailleurs, on peut citer une enseigne qui a été précurseur en la matière, c'est McDonald's. McDonald's a été les premiers, parmi les premiers, à proposer un système différent. C'est-à-dire que dans la restauration, en général, on dit, voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un de 12h à 15h et de 18h à 22h. Et généralement, c'est tu prends ou tu laisses. Hein. Eux, ils ont fait la démarche inverse. Ils ont dit, voilà, donnez-nous votre planning personnel, donnez-nous votre vie sociale Et nous, on va vous construire un planning en fonction de vos disponibilités. C'est-à-dire, voilà, vous êtes disponible le lundi de 10h à 15h, vous êtes disponible le mercredi de 12h à 14h. Eh bien, OK, on vous propose un planning qui correspond à vos besoins, à vos libertés. Et c'est pas toujours possible à faire, c'est pas toujours facile à faire. Mais je veux dire, ça donne la notion de la différence qu'il y a entre les fast-food et la restauration traditionnelle. Ensuite, je dirais qu'il y a une forme de management différente. Généralement, dans la restauration rapide, pour schématiser, on a une forme de management qui repose sur l'héritage du taylorisme, c'est-à-dire que où on dissèque chaque geste à l'extrême. Et je veux dire, il y a juste à appliquer, je dirais pas de façon stupide, mais de façon rigoureuse, les gestes qu'on nous enseigne, c'est minuté, etc. Il y a même une sonnerie qui retentit toutes les 20 minutes pour penser à aller se laver les mains. Je veux dire, c'est voilà, on a enlevé aux salariés toute idée d'autonomie. Dans la restauration traditionnelle, moi personnellement, je plaide pour ce qu'on appelle la DPO, c'est-à-dire la direction par objectif, où on confie au personnel une mission. Voilà. Et il peut déroger aux enseignements du chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise doit accepter d'être contredit. Voilà, c'est si je sais pas, je vais prendre un exemple, mais si pour servir un demi-pression, le chef d'entreprise il a l'habitude de faire un certain geste, d'enlever la mousse après, enfin, etc., et que le salarié il le fait différemment, qui prend une demi-seconde de plus, mais qu'il a pas de mousse à enlever, eh ben si le résultat est le même, pourquoi on voudrait l'obliger à appliquer exactement les mêmes gestes que ce que veut le chef d'entreprise? Donc il faut leur donner une certaine liberté d'action.
Oui, donc concrètement, si moi je suis un chef d'entreprise, je fais appel justement à un recrutement. Parce que je suis dans la restauration, parce que, par rapport à ces chaînes de fast-food, moi j'ai besoin d'une compétence, parce qu'on est bien là, on a besoin de compétences. Aujourd'hui, moi je suis effaré quand même de voir que des gens sont capables de faire des steaks. Alors effectivement, il existe des techniques, tu les connais, pour savoir si c'est bleu, saignant, à point. Bon, on connaît les systèmes, hein. Bon, oui. Plus ou moins fiables. Mais moi, je suis étonné parce que on n'ait pas de température. On connaisse pas les températures à cœur. On utilise très peu les sondes et on dirait que ça devient exempt de la formation initiale. Mais si moi je suis un chef d'entreprise et je cherche justement de la compétence et j'ai besoin justement, je me dis voilà, moi j'ai besoin d'un chef de cuisine, d'un second et d'un commis. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour retrouver les bonnes personnes et de quelle manière on peut faire pour avoir ce genre de salariés? Alors, qu'est-ce qu'on met en œuvre?
Oui, première chose. Il faut savoir que statistiquement, je crois que c'est 68% des curriculums vitae sont bidonnés. Donc, si on ne prend pas le curriculum vitae du candidat et qu'on ne contrôle pas en téléphonant dans les entreprises dans lesquelles il prétend avoir travaillé à un certain poste, si ça se trouve, il a peut-être travaillé dans cette entreprise, mais à un poste totalement différent, ben déjà, on part avec un handicap certain. Donc, il faut checker le CV. Il n'y a pas 50 solutions. Ensuite, le recruteur, lui, va pousser beaucoup plus loin. Il va poser des questions techniques. Il va, par exemple, si on doit embaucher un cuisinier, on va lui demander, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une réaction de Maillard? S'il n'est pas capable de répondre à cette question simple et basique qu'on apprend en première année de CAP, c'est que c'est pas un vrai cuisinier. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est un exemple. Il y a tout un tas de questions qu'on peut poser pour checker les compétences d'une personne. Mais ça, c'est le métier des recruteurs, parce que bien souvent, les chefs d'entreprise, ils ont pas le temps de faire ça. Tu le disais justement tout à l'heure. Ils ont la tête dans le guidon et ils ont pas le temps de s'occuper de ce genre de détails. Un recrutement, ça s'opère en plusieurs étapes. D'abord, on va analyser les CV qu'on reçoit. on va téléphoner pour vérifier les compétences. Ensuite, on va avoir un entretien avec la personne pendant laquelle on va essayer de checker son savoir-être, c'est-à-dire sa façon de se comporter, qu'est-ce qu'il est au fond de lui, quel est son caractère, comment il va s'entendre avec le reste de l'équipe, est-ce qu'il est capable d'être autonome ou pas, etc. etc.
En fait, ce que tu veux dire, c'est que, et c'est là où moi j'essaye de comprendre, et comme je te dis, je fais l'avocat du diable, c'est tu vas prendre cette personne et effectivement, au prime abord, comme ça, quand ils vont arriver un peu comme leur CV. Ils se tiennent à carreau, ils viennent avec un discours tout fait. Et finalement, au travers des questions que tu poses, parce que je sais un peu, parce que tu m'as expliqué comment tu faisais, tu vas regrouper des choses, tu vas poser des questions de manière différente, et finalement, tu vas les croiser pour arriver à un résultat. Et si ce résultat n'est pas conforme, ça veut dire que quelque part, on a menti, quelque part, on n'est pas à la hauteur. En tous les cas, on va pas être capable de pouvoir, exercer ce poste et cette mission. D'ailleurs, vous avez vu un chef de cuisine et vous êtes rendu compte qu'en fait, effectivement, c'est sans doute un très bon cuisinier, mais c'est absolument pas un chef de cuisine. C'est-à-dire que il oublie que si on va pas grammer les choses, on va pas avoir un cadencier, etc., et que on met pas tout ça en place, et ben effectivement on fait pas gagner d'argent à notre entreprise. Et donc c'est bien de faire à manger qui est bon, mais si derrière on n'a pas de bénéf, c'est pas suffisant. Donc le rôle du chef, puisque moi je suis quelqu'un qui suis pour qu'il y ait un diplôme de chef. Moi, je voudrais un diplôme de chef au même titre que qu'on va prendre les ressources humaines. On a un diplôme de ressources humaines, etc. Parce que je pense que ce métier-là, aujourd'hui, il ne peut plus être galvaudé. Il a, et voilà.
Je suis d'accord avec toi parce que d'abord, chef, ça veut dire quoi? Il faut différencier parce qu'il y en a beaucoup qui se disent chef. Ils se disent chef parce qu'ils travaillent tout seuls dans une cuisine. Ils ne sont pas chefs, ils sont cuisiniers sachant travailler seul, ce qui n'a absolument rien à voir. Un chef, il est capable de diriger une brigade, d'avoir des chefs de partie, etc. Et puis, effectivement, il est responsable de l'hygiène et il est responsable de la rentabilité de ce qu'il produit. Donc, c'est deux métiers complètement différents.
Et ça, tu peux le découvrir. Tu peux le découvrir au niveau de l'entretien, du travail que tu vas faire en amont. Pour en fait donner un candidat qui sera.
Ah oui, bien sûr, oui, ben ça, on arrive. Et après, une fois, parce que même si on a plusieurs candidats qui ont les compétences requises, il faut choisir le candidat qui va correspondre à l'entreprise, c'est-à-dire qui va pouvoir s'insérer dans l'entreprise. Donc, à compétences égales, il y a certains candidats qui pourront correspondre à l'entreprise, à sa marque employeur, aux valeurs de l'entreprise, et puis d'autres qui ne correspondront pas du tout, donc c'est pas la peine de les présenter.
Ouais, on avait fait le cas ensemble, j'avais bien aimé le cas qu'on avait fait ensemble, justement sur un restaurant, un hôtel-restaurant, et effectivement, quand j'ai eu cette candidate, parce que c'était une candidate, en fait, tout ce que tu avais travaillé quand je l'ai moi-même un peu checké, c'est vrai que c'était exactement ce que tu m'avais tenu comme discours sur la personne. Et effectivement, c'était vraiment, c'était vraiment bien. Je trouve que c'était comme un filtre qui avait été fait. On était passé par des tamis pour arriver à vraiment à affiner le recrutement. J'avais trouvé ça sympa.
C'est ça. Ouais. Alors, je conçois parfaitement. Je suis pas là. L'objet de ce podcast, c'est pas de faire la promotion des organismes de recrutement. Je conçois parfaitement que ça peut faire peur à certains employeurs, que ils peuvent choisir de dire, comme tu le disais, je vais passer une annonce sur le bon coin, et puis peut-être sur un malentendu, je vais trouver quelqu'un. Je dirais, mais par pitié, les conseils de base, c'est quand vous recherchez un salarié, arrêtez de mettre recherche serveur ou recherche maître d'hôtel. Présentez-vous, dites qui vous êtes, donnez-leur envie de venir travailler avec vous. Et si vous leur donnez envie de venir travailler avec vous, peut-être que vous aurez plus de chances de trouver des candidats. On le sait, il y a une pénurie Je ne compte plus le nombre d'établissements qui ferment une journée de plus ou deux journées de plus par semaine par manque de personnel. Mais donnez-leur envie de venir travailler avec vous. Soyez créatifs au niveau des avantages que vous leur proposez. Arrêtez de dire « j'ai besoin d'un chef de cuisine ». Oui, tu as besoin d'un chef de cuisine, on est d'accord. Ben, comme tous les autres. Tous les autres, ils ont besoin d'un chef de cuisine. Maintenant, dis-moi pourquoi le chef de cuisine ou l'un des chefs de cuisine aura plus envie de venir travailler chez toi que chez les autres. Et c'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser et les réponses qu'il faut apporter.
Ah ouais, ça,
alors justement, ouais. Il y a quelque chose de fondamental dont j'aimerais que vous parliez maintenant, messieurs. Je pensais que vous alliez en parler plus tôt, mais bon, voilà. Tu dis qu'on ne trouve pas de personnel et c'est vraiment compliqué pour tout le monde. Comment vous optimisez le recrutement, parce que c'est le sujet du podcast, quand on met en place des nouvelles techniques de cuisine? Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui. C'est qu'on parle de cuisson basse température sous vide. Comment ces techniques-là révolutionnent l'organisation de la cuisine et comment justement ça optimise le recrutement? J'aimerais bien que vous m'expliquiez et que vous expliquiez à tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est pour ça qu'ils nous suivent, comment ça fonctionne.
Ouais, alors
Christophe, il est chaud là.
Non, pas du tout. Alors, je voulais juste, pour commencer, faire, aller mettre une petite touche d'humour. Récemment, je vais donc chez un restaurateur et j'ai le chef en cuisine et nous parlons de sous vide, basse température, puisque le sous vide va nous permettre justement d'optimiser certaines choses et juste, enfin, dans notre entreprise, on va l'évoquer tout à l'heure. Et donc je parle et ce chef me dit quelque chose qui était formidable. Je lui demande s'il connaît le sous vide basse température. Il me dit non. Bon, mais il me dit ça fonctionne pas. Donc on ne connaît pas, mais ça ne fonctionne pas. Ça c'est génial. Deuxième chose, je lui dis donc effectivement bon apparemment ça ne fonctionne pas. Mais je dis, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Il me dit non, parce que moi, je travaille qu'avec des produits frais. Alors, donc il connaît pas, il travaille avec des produits frais. Et donc, je lui dis, bah tiens, on va prendre, tu as une escalope. Comment tu fais ton escalope? Ben, il me dit, tu vois, moi, j'ai une escalope fraîche. Ben, je dis, ben moi, tu vois, je vais prendre une escalope fraîche. Il me dit, ben tu vois, je la cuis. Je dis, ben tu vois, moi, je la mets dans un sac. J'y mets du beurre, j'y mets des choses, de la matière grasse, voilà, et du sel, du poivre, et je la cuis. Et après, il me dit, oui, mais tu vois, moi, elle est cuite. Et puis moi, je lui dis, ben oui, tu vois, moi, elle est cuite aussi. Sauf que moi, elle est protégée, et que là, je vais l'utiliser, si je veux, dans 15 jours, dans 20 jours, et je vais la garder entre 0 et 3 degrés. Voilà, c'était une petite anecdote pour montrer que souvent, les gens ne connaissent pas, ne savent pas faire, ont quand même un avis. Et le pire, c'est que, comme ils ne savent pas, ils tiennent des propos qui sont un petit peu en dehors de la réalité. Alors, quels sont les outils, Didier?
Déjà, première chose, sur la cuisson sous vide, basse température, il faut savoir que partout où on l'a mis, et Christophe, tu peux en témoigner, partout où on l'a mis, on génère à peu près 25% d'économie de frais de personnel en cuisine. Pourquoi? Parce qu'on fait la production en amont et qu'au moment du coup de feu, ben à vrai dire, il n'y a pas de coup de feu, ou très peu, parce que ça, c'est le fait de régénérer, ça facilite grandement la vie. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas, on va quand même leur faire un peu d'histoire. En 1974, Georges Pralu, le chef de cuisine Georges Pralu, qui était quand même connu, a mis au point la cuisson sous vide basse température pour les frères Troisgros, qui sont 3 étoiles Michelin et qui le sont encore depuis, c'est la 4e génération, je crois, qui sont 3 étoiles Michelin depuis 4 générations. Donc, et aujourd'hui, 98% des restaurants étoilés travaillent avec la cuisson sous vide basse température. Donc, si ça fonctionnait pas, à mon avis, ces gens-là, ils l'utiliseraient pas. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises ou de parler de choses qu'on ignore. Ensuite, ça permet des avantages énormes. Ça permet, comme tu le disais si bien, de conserver. Moi, j'ai l'exemple, j'en parlais avec Xavier ce matin, j'ai l'exemple d'un client sur lequel je suis intervenu qui produit tout. Il a une équipe de production et une équipe d'envoi. une équipe d'envoi qu'il a formée lui-même, ce n'est pas forcément des cuisiniers professionnels, et une équipe de production avec un chef de cuisine, un second, etc. Mais il cuisine tout en basse température, en sous-vide basse température, et avec ses tests de vieillissement, il a obtenu l'autorisation, il conserve tout 21 jours. C'est-à-dire que tout ce qu'il produit aujourd'hui, il peut le garder pendant 21 jours. Donc, perte zéro. C'est-à-dire, il a réduit sa perte à zéro. Il faut quand même savoir que, statistiquement, et ça c'est facilement vérifiable aussi, 30% de ce qui est produit finit à la poubelle. Donc, à l'époque où nous avons des gens qui meurent de faim, à l'époque où on est en train de chercher, il faut savoir quand même qu'au mois de juillet, tous les ans, on dépasse la consommation planétaire. Je veux dire, c'est à partir de juillet, on mange sur l'année d'après, au niveau des ressources de la Terre. Donc, la lutte contre le gaspillage, c'est important. Ensuite, ça améliore considérablement le coût matière, ça améliore
la
texture. Il n'y a pas de réduction, ouais. Oui, tu as raison. Donc,
la réduction de cuisson.
Oui, il n'y a que des avantages. Donc, on met en place des protocoles de façon précise. Je dirais même qu'à partir du moment où on a fait notre fiche technique et où, où le protocole est parfaitement respecté, il n'y a plus besoin vraiment des compétences extraordinaires d'un chef patenté pour reproduire. Parce que après, c'est juste à reproduire. On le sait bien, on rencontre tous les deux dans des établissements des chefs de cuisine qui n'en sont pas vraiment et qui arrivent à sortir des produits de grande qualité une fois qu'ils ont mis la cuisine basse température en place. Donc, il n'y a que des avantages à le faire.
Ouais. Alors, c'est vrai que la petite
part... Excuse-moi. Qu'est-ce que ça change justement au niveau du recrutement? Parce que c'est ça le sujet. Comment on optimise le recrutement quand on utilise ces techniques? Tu l'as dit, on a une équipe de production. Ouais. Donc, comment ça s'organise cette équipe de production? Le planning, quels sont les avantages? Et puis après, il y a l'équipe d'envoi. Qui c'est qu'on vient former? Qui c'est qu'on vient recruter? Est-ce que ça facilite le recrutement aussi pour ces personnes? C'est ça que... Est-ce qu'on pourrait transmettre des infos utiles à ceux qui nous écoutent par rapport à ça? Alors, pour les inciter justement à cette technique, pour aider au recrutement, parce que le but, c'est de trouver du personnel. Des chefs, on n'en trouve plus. Donc, comment mettons en place des nouvelles techniques qui nous permettent justement de recruter des personnes qui sont pas forcément du métier, qui sont peut-être des serveurs ou autres, et grâce à ces techniques?
Avant que Christophe réponde, si tu permets, je vais vous donner un exemple. Il se trouve que moi, j'ai vécu à Lisbonne quelques années et que j'ai rencontré beaucoup de restaurateurs là-bas parce que c'est dans mes fibres et que j'ai rencontré, entre autres, il y avait 5 restaurateurs qui se sont mis ensemble. Ils ont embauché ensemble un chef de cuisine qui produisait en sous-vide basse température pour les 5 restaurants, et dans chaque établissement, ils avaient juste un commis qui faisait l'envoi avec la photo du plat tel qu'ils devaient l'envoyer. Donc, ils n'avaient plus de besoin. Sinon, en temps normal, ils auraient eu chacun un chef et un commis. On est bien d'accord. Donc là, ils avaient chacun un commis qui faisait l'envoi, et en extérieur, ils avaient un chef qui produisait pour les 5 restaurants. Des 5 restaurants qui n'appartenaient pas au même groupe. C'était 5 indépendants. On est bien d'accord. Donc, on voit bien qu'au niveau du recrutement, ça leur facilitait quand même grandement la vie, quoi, parce qu'ils avaient juste besoin de quelqu'un. Et quand je dis commis de cuisine, c'est-à-dire qu'ils avaient pris quelqu'un, ils l'avaient juste formé à dresser les assiettes. Point. Il n'avait pas besoin, de compétences particulières. Il avait juste à suivre la photo qu'on lui donnait. Le seul qui était compétent, c'était le chef qui produisait pour les 5 restaurants. Vas-y, Christophe, je laisse
Non, mais en fait, tu viens de répondre. C'est que, aujourd'hui, c'est ça le côté très simple et la solution, c'est que pour trouver quelqu'un qui a vraiment une grande, grande technique, de la technicité, quelqu'un qui est capable de lever un filet, d'aller couper une pièce de bœuf dans une partie bien précise de l'animal, etc. Ça, c'est de la technique. C'est vraiment un métier très technique. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande à celui qui va réaliser la recette? C'est suivre. Nous, ça nous arrive souvent de venir dans le cadre de formation où nous venons former le personnel. Nous mettons à disposition les recettes tout ce qui va être nécessaire à la fabrication chaque jour des produits. La personne suit, elle prend le morceau, elle le met, alors bien évidemment, dans un sac, elle y met les épices correspondantes, elle va y mettre un temps, une température à cœur et un temps de cuisson. Bon, ensuite, on passe en cellule de refroidissement et on stocke. Bien sûr, il y a une traçabilité, on stocke. Donc, tout à chacun aujourd'hui, on peut réaliser ce genre de choses si en amont, soit par un chef, soit par une formation, nous mettons en place, j'allais dire, cette structure. C'est ça qui est simple. En fait, quelqu'un ferait appel, pourrait même faire appel à nous, eh bien, ça pourrait aller très vite finalement. On analyse, on voit, on met en place et en 5, 6, 7 jours, on peut mettre une production en œuvre. La petite chose auquel il faut faire attention, c'est toujours en fait de se dire qu'on n'est pas là pour travailler aujourd'hui pour aujourd'hui ou aujourd'hui pour demain. On est là pour travailler pour une semaine ou 15 jours en avance. Donc, on va travailler sur 2 jours, 3 jours, mais pour 15 jours, 3 semaines. Et c'est cette chose que il faut intégrer. Sinon, on va se dire, bah oui, toi, tu fais tel plat. Bah regarde, tu mets 1h30 pour le faire. Moi, je mets 1h30 pour le faire. Quel est l'intérêt? Bah oui, mais moi, je le fais dans 3 semaines. Voilà, ouais. C'est la petite différence. C'est que moi, je suis déjà en train d'être sur ma troisième semaine de menu. Donc, ça, c'est des petites choses qui sont, mais tout à chacun, bien drivé, il n'y a pas de souci.
Oui, puis tu peux mettre à cuire la nuit, tu peux le faire n'importe quand, quoi.
Exactement. Donc, après, ça, c'est tous les avantages qui sont liés à cette, le sous-vide, la basse température et le sous-vide en particulier.
Exactement. Je crois qu'on a perdu Xavier, non?
Oui, apparemment Xavier nous a quittés.
Ouais.
Il a estimé qu'on a été trop long. Je sais pas.
C'est peut-être ça. Ok, bah, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire de toute façon.
Oui, je crois que le tour. On reviendra de toute façon. Je pense qu'on reviendra sur ce genre de podcast. Parce que optimiser le recrutement, ça se résume pas à ce qu'on a dit, c'est beaucoup plus vaste. Mais voilà, ce sont des éléments.
Oui, ce sont les grandes lignes. Ça y est, on a récupéré Xavier. Bonjour Xavier.
Oui, oui. Je vous ai tout entendu, hein. Il n'y a pas de souci, j'étais là. Merci d'avoir évoqué ce sujet. Bah oui, parce que quand même, c'est là où on obtient, nous, les meilleurs résultats. Hein. C'est quand on met en place les techniques de cuisson basse température sous vide. On a tellement d'entreprises avec ça que c'était dommage de ne pas en parler. Et qu'aujourd'hui, vu les temps qui courent, il faut absolument basculer les organisations, changer les techniques en cuisine. Et c'est ce que d'ailleurs, avec Didier, on va mettre en place dans l'entreprise qu'on a vue aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment un game changer, hein, comme disent les gens aujourd'hui. C'est ce qu'on vous préconise. Alors bien sûr, les techniques de recrutement dont Didier et Christophe ont parlé au début, bah, bien sûr, c'est essentiel. Mais voilà, c'est un tout. Et nous, on vous accompagne sur l'ensemble. Donc, bien sûr, comme disait Christophe, il est tout à fait possible de nous appeler. On met en place ces techniques. On peut même mettre en place des relations, comme l'a dit Didier, inter-établissement. Je pense que là, on vient de donner une idée à beaucoup de gens. Le fait de se regrouper, le fait de travailler de manière beaucoup plus solidaire et de manière beaucoup plus intelligente, ça va être des choses qui vont se développer, je pense, dans l'avenir, pour résoudre les problématiques de recrutement et de rentabilité dans les entreprises. Voilà, bah écoutez, merci messieurs. C'était très
merci
sympa. Et
toi.
Puis on se retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.